gris du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois micro, heureux de vous retrouver une fois de plus. Notre invité a, au gré du temps, exercé son métier de psychothérapeute, en fait pendant environ 20 ans. Musicien accompagnateur, il a un jour décidé qu'il écrirait ses propres chansons. C'est ainsi qu'il est devenu un véritable auteur-compositeur-interprète, une façon thérapeutique de traverser la vie peut-être. Les chansons qu'il écrit s'inspirent grandement des histoires qu'il a entendues à titre de thérapeute, de même que de ses propres expériences personnelles, bien sûr. Ces mots nous racontent les relations de vie, les défenses, les joies, les peines, l'amour, la vie, bref. Ces chansons parlent de nous, les humains. Guy Boucher est avec nous. Bonjour, Monsieur Boucher.
Bonjour.
Alors, de thérapeute à musicien, en voilà tout un parcours.
Mais à vrai dire, le côté musicien était là en premier depuis que je suis tout petit, moi, que la musique m'a toujours habité. Et je dirais que le métier de thérapeute l'a emporté parce que c'était une façon très honorable, très noble et très passionnante de gagner sa vie, si on veut. J'avais comme un rendez-vous avec la musique. C'est clair que j'ai toujours dit, moi, que mon plus grand regret lors du grand départ, ça aurait été de me dire « Oh, j'aurais dû essayer la musique. » Mais là, il est trop tard.
Ouais, vous dites que vous avez toujours eu un grand rendez-vous avec la musique. Il faut dire que vous venez d'une famille nombreuse.
Absolument.
On parle d'une famille très nombreuse.
Je suis le dixième d'une famille de 11.
Alors, quand on est 11 enfants autour de la table, on discute, on parle.
Absolument.
C'est déjà très chantant.
Oui. Ah oui, il y avait beaucoup de musique dans la maison chez nous. C'est un des plus beaux cadeaux de vie que nos parents nous ont fait, particulièrement ma mère, envers qui je suis très reconnaissant. Il y avait toujours de la musique dans la maison, même s'il n'y a aucun musicien professionnel.
Oui, mais quand je dis c'est très chantant, parce que quand tout le monde se met à parler autour de la table de sa vie personnelle, de ses échanges avec frères et sœurs, ça devient presque une musique.
Oui, on n'avait pas le temps de s'ennuyer, c'est bien clair. Je pense que c'est une période de ma vie, moi, qui est très colorée par ce que j'appelle la joie de vivre et la capacité de s'émerveiller. S'émerveiller des histoires que j'entendais des plus grands. S'émerveiller de la vie, d'un rien. Vous comprenez qu'à cette époque-là, 11 enfants, il n'y a pas beaucoup de sous. Mon père était un ouvrier non spécialisé à l'Alcan d'Arvida, une usine à l'époque. Mais donc, on a appris très jeune à faire travailler notre imagination et à développer notre capacité à aimer la vie telle qu'elle est.
Qu'est-ce que vous vous souvenez? Quel est le plus beau souvenir de cette vie collective en famille?
Les dimanches après-midi, quand on écoutait de la musique et que les plus grands dansaient avec leurs copains ou leurs copines.
À l'instar de Frédéric de Claude Lévesque qui racontait ses dimanches.
Oui, absolument. L'observation que je fais, moi, j'ai toujours eu cette espèce de fascination à observer les comportements des plus grands et à essayer de comprendre pourquoi ils agissaient de telle ou telle façon. Et à rire aussi. Ça riait beaucoup dans ma famille. Les plus beaux souvenirs que j'ai, je dirais, ce sont des souvenirs... Il y a un côté agréable à ces souvenirs-là. Il y avait une expression que j'avais vue dans un livre qui était « des coudes qui se touchent à la table ». Parce qu'on est serré.
Bien sûr.
Donc, il y a un petit peu de manque d'espace, si on parle un peu de défense. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est bon au niveau du lien, la capacité de créer des liens.
Les coudes serrés, mais on mange tout ce qu'il y a dans son assiette.
Oui, pas mal, oui. Parce que, qu'est-ce qu'elle disait, ma mère? Elle disait, on gaspille pas le manger du bon Dieu.
Quelle belle expression.
Oui.
Vous avez composé une très belle chanson qui va tout de suite nous faire découvrir l'auteur-compositeur-interprète que vous êtes et qui raconte un peu cette vie à Chicoutimi aussi.
Oui, c'est à Chicoutimi. Oui, je viens dans le quartier ouvrier dans lequel j'ai grandi. On a à droite, c'est une ville de côte, Chicoutimi, pour ceux qui connaissent ça. C'est pour ça qu'on disait que les filles avaient des belles jambes, d'ailleurs.
Est-ce que vous étiez à Chicoutimi ou à Arvida?
Chicoutimi.
Chicoutimi, bien sûr.
Et donc, à droite de notre quartier, il y avait une grande côte qui menait à l'école qu'on fréquentait. Et à gauche, il y avait un dépotoir à ciel ouvert à l'époque. Aujourd'hui, il n'y aurait plus le droit de faire ça. Il y avait un dépotoir à ciel ouvert qu'on appelait entre nous la coulée. Et on allait jouer au cowboy là-dedans. C'était notre réservoir de jeu, ça.
Alors, la chanson s'appelle tout simplement « Entre une côte puis une coulée ».
Une rue qui est bien trop grande pour oser traverser. Dans des entrées de garage, deux, trois autos de parquet. Des arbres comme géants, leurs bras qui se touchent au ciel. Un jour quand je serai grand, je m'envolerai sur mes ailes. C'était ma vie de quartier, une petite ville dans la ville. Une rue tout ce qu'il y a de tranquille, entre une côte et une coulée. Un téléphone au mur, une TV qui fait dur. C'est dans les rêves qu'il y a plein de jeux, juste à fermer les yeux. De la musique dans la cuisine et des traces de farine. Et les grands qui se déhanchent à la danse du dimanche. C'était ma vie de quartier, une petite ville dans la ville. Une rue tout ce qu'il y a de tranquille, entre une côte et une coulée. En juillet, les odeurs de la Price ou de la coulée. Dans ce temps-là, les seigneurs s'en sacraient de la santé. Des enfants qui allaient jouer au cowboy à la guerre. Au dépotoir d'à côté qui était à ciel ouvert. C'était ma vie de quartier, une petite ville dans la ville. Une rue tout ce qu'il y a de tranquille, entre une côte puis une coulée. Jamais, même si c'est imparfait. Aujourd'hui, ça a changé, les familles sont parties. Mais moi, je garde au fond de moi la petite rue Crémazie. C'était ma vie de quartier, une petite ville dans la ville. Une rue tout ce qu'il y a de tranquille, entre une côte et une coulée. C'était ma vie de quartier, une petite ville dans la ville. Une rue tout ce qu'il y a de tranquille, entre une côte et une coulée.
C'est entraînant, cette musique.
Merci.
Et ça rappelle sûrement de beaux souvenirs oui. à Guy Boucher qui est avec nous aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est, ça porte vraiment la couleur familiale, la couleur des liens qu'on a tissés entre nous au fil du temps. Au gré du temps, tiens, j'ai envie de dire.
Bien sûr, pourquoi pas. Vous étiez le dixième d'une famille de 11.
Oui.
Donc, entouré, bien sûr, de plus grands.
Oui.
Et cela, j'imagine que ça veut dire aussi peut-être plusieurs papas et plusieurs mamans à la fois.
Ben oui, parce qu'en plus des... Oui, c'est vrai ça. Je suis content que vous souligniez ça parce que en plus des parents biologiques, si on veut, parmi les... Moi, j'ai la chance d'être parmi les derniers. Alors, il y a des parents de cœur aussi. Je les appellerais comme ça. qui prennent soin de nous autres ou qui nous entraînent dans des jeux ou qui vont nous amener parfois dans des sorties avec eux. Je me souviens, entre autres, moi, qu'une des sorties qui m'a marqué, c'est mon frère qui fréquentait le séminaire et qui m'avait amené à un concert pour la fête de Pâques. C'était un concert qui était donné par les étudiants et la chorale et tout ça. Et à l'époque, je n'étais pas encore musicien. J'ai 11 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'a tellement marqué, ce concert-là, que c'est tout de suite après que j'ai commencé à m'intéresser à la musique et à la guitare, entre autres, et des choses comme ça.
Et je vous raconte ça parce que j'ai une sœur aînée. Mm-hmm. Nous avons 10 ans de différence.
Ah, oui.
Et quand j'étais jeune, je la surnommais « Maman 2 ». Jusqu'au jour où, à 16, 17, 18 ans, elle a dit « Tu cesses de m'appeler Maman 2 ».
Oui, Maman 2. Ouais, ben moi, c'est Maman 1, Maman 2, Maman 3, Maman 4, Maman 5.
Voilà. Vous avez aussi, on vous a entendu interpréter cette belle chanson « Entre une côte puis une coulée », mais vous avez aussi collaboré à d'autres albums. Je pense particulièrement à Annick Proulx, que nous avons reçue récemment,
oui.
Où vous l'accompagnez à la guitare,
oui.
Une artiste en émergence également,
oh, oui.
Qui a, elle aussi, lancé son album.
Mm-hmm.
Comment vous vous êtes rencontrés l'une et l'autre?
C'est pas compliqué, c'est qu'elle elle était en partie principale pour un concert d'auteurs-compositeurs-interprètes à Montréal, sur l'avenue du Parc, et j'avais été invité à faire sa première partie. Et par la suite, ben on a gardé le contact et moi j'avais aimé ce qu'elle faisait et je lui avais dit ben écoute, si tu as besoin encore de me voir en première partie puis même si tu as envie que je collabore avec toi, j'en ai le goût. Et on a pris contact pour un concert futur, j'étais avec elle à la Place des Arts l'année dernière puis depuis ce temps-là on collabore ensemble. J'adore ça.
Alors on va entendre Annick Proulx nous interpréter une de ses compositions à elle qui a pour titre Qu'est-ce qu'on a à se dire et qui raconte un peu les retrouvailles de deux amis d'enfance après plusieurs années.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on a à se dire aujourd'hui? On pourrait se poser la question, oui. Parce que vous en avez des choses à dire, vous
oui.
aussi.
Oui.
Votre carrière de psychothérapeute mm-hmm. vous a probablement permis d'entendre toutes sortes d'histoires.
Absolument.
Des plus belles ou moins belles, peut-être?
Elles sont toutes belles. La beauté de ce métier, de cette profession-là, je dirais, c'est que ça te permet d'être en contact avec ce que j'appelle, moi, le côté le plus noble de l'être humain, mais son côté le plus cheap aussi. Parce qu'on porte tous ça, tous et toutes. Et moi, ça m'a aidé personnellement même à grandir et à porter un peu moins de jugement sur l'expérience des autres. Parce que chacun, dans le fond, vit ses propres drames ou ses propres joies à sa façon que les autres ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas en nous.
Mais je retiens de ce que vous dites qu'elles sont toutes belles, les histoires,
absolument.
Malgré les drames.
Absolument. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de... Il n'y a rien de plus beau que l'aventure humaine, à mon avis. Puis pour moi, l'enjeu que je voyais dans les histoires que j'entendais, c'était oser se montrer à soi-même. Pardon. Oser être soi-même. Oser la vérité puis l'authenticité.
C'est pas facile, ça.
Non, c'est pas facile, parce que la peur qui est sous-jacente, c'est toujours comment je vais être accueilli. Comment je vais être accueilli?
La peur de l'autre.
La peur de l'autre, la peur de l'image que ça nous renvoie. Peut-être même la peur de soi-même. À quelque part, je pense qu'on a même un peu peur de se montrer à nous-mêmes tel qu'on est, parce qu'il y a une partie de nous qui risque de nous trouver un peu effrayant.
Est-ce que vous avez constaté dans votre cheminement professionnel, à travers toutes les personnes que vous avez pu rencontrer, que l'environnement aussi se transformait et venait influer sur le parcours de vie des gens?
Dans les deux sens. C'est-à-dire que l'environnement pouvait avoir une influence et je pense que la personne peut influencer son environnement aussi. Ce que j'aimais particulièrement, moi, quand j'accompagnais des gens en thérapie individuelle, c'était que, sur le plan individuel, les gens ont toujours le pouvoir d'agir. Ils ont le pouvoir d'agir sur eux-mêmes. Ils n'ont pas toujours le pouvoir sur les événements, mais ils ont toujours le pouvoir de choisir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces événements-là. Est-ce qu'ils vont les transformer en drame, en dépression, en occasion d'apprentissage? Vous voyez, là-dessus, on a toujours 100 % de choix.
Et votre rôle, c'est de les mettre, de leur faire prendre conscience de ce
oui.
pouvoir.
Oui, puis de les aider à l'assumer ou de les aider au moins à accepter que parfois, ils n'étaient pas capables.
Probablement que la prochaine chanson que vous avez écrite est très inspiré par ces histoires.
Absolument. Et par ma propre expérience, c'est le thème, dans le fond, c'est « Si j'ose me montrer à toi tel que je suis, comment je vais être reçu? » C'est la grande question de la vie, ça, dans le fond. Depuis qu'on est tout petit, qu'on se demande « Si je fais telle chose, je vais-tu être aimé? »
M'aimeras-tu ainsi, Guy Boucher?
Montre au jour sans prendre de détour. Si je te montre mes couleurs sans voile, sans pudeur. Si tu vois qui je suis, m'aimeras-tu ainsi? Si je te raconte les peurs qui me hantent le cœur. Si je te montre mes défenses sans cacher ma souffrance. Si tu vois ma vie, m'aimeras-tu ainsi? C'est mon cri qui vole vers toi dans ma nuit pour toucher un instant d'éternité. C'est mon cœur qui veut sortir de sa torpeur pour briser les silences de mon passé. Si je m'éloigne de toi quand j'ai besoin d'espace. Si je m'accroche à toi pour que l'amour me passe. Dans cette fragilité, m'aimeras-tu ainsi? Si je te montre ma folie dans ce que j'ai de moins beau. Toutes mes fantaisies sans mettre de manteau. Dans cette lucidité, m'aimeras-tu ainsi? C'est mon cri qui vole vers toi dans ma nuit pour toucher un instant d'éternité. C'est mon cœur qui veut sortir de sa torpeur pour briser les silences de mon passé. De mon passé.
Des grandes vérités dans cette chanson.
Effectivement. Ça parle des défenses, ça parle de montrer nos couleurs. Puis ça parle d'une volonté d'aller vers l'autre.
Il y a des gens, et vous le savez sans aucun doute, qui diraient et qui disent encore que, à entendre les histoires de tous et chacun, on en arrive parfois à la désespérance.
Ça m'a souvent été demandé, ça. Les gens me demandaient à la blague, tu dois être déprimé, toi, tout le monde qui rentre dans ton bureau, c'est pour te dire que la vie est plate puis que ça va mal. Et c'est pas comme ça que je le considère, moi. Je le considère comme les gens entraient dans mon bureau avec la confiance en moi, la confiance que je peux les accompagner, puis je peux les comprendre et les aider. Ça, j'ai envie d'honorer ça. Mais évidemment, c'est pas moi qui porte leurs problématiques, j'en suis bien conscient.
Mais il faut se protéger soi-même,
c'est pas... Oui, tout à fait. Oui, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on va en formation pour devenir thérapeute, pour faire en sorte qu'on n'importe pas les problèmes des autres dans notre propre vie, puis on est capable de bien vivre avec le fait qu'il y a des gens, on côtoie des gens qui souffrent.
Et s'il y avait un point de convergence à travers les drames, les tragédies ou les difficultés de parcours de toutes ces personnes que vous avez rencontrées, quel serait ce point de convergence?
La quête de l'amour, carrément.
Et les gens souffrent de ne pas être aimés ou de ne pas pouvoir aimer?
De ne pas pouvoir s'aimer, de ne pas pouvoir être aimé.
C'est déjà un grand projet, ça.
Oui, ça commence par là, d'ailleurs. Mm-hmm. Si je ne suis pas capable de m'aimer moi-même, qui est celui qui est devant toi qui prétend t'aimer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pas essentiel dans le développement personnel, ça. Être capable de se regarder et de dire, ben, ouais, mon kid, aujourd'hui, je t'haïs pas, là.
Il y a déjà quelqu'un qui a dit, aime-toi, aime ton prochain comme toi-même.
Absolument. Mais pour moi, c'est ça. C'est l'essence de ce message-là, c'est ça. Mais il ne faut jamais perdre de vue que dans cette phrase-là, il y a comme toi-même. Alors, moi, je suis porté à croire que, d'une certaine façon, la haine qu'on peut porter envers quelqu'un, c'est une haine envers soi-même qu'on projette chez l'autre. Mais là, on rentre dans des affaires bien psycho, là.
Ben regardez, on va faire une pause. Mm-hmm. Avant d'aller à cette seconde partie d'émission, je vais vous faire découvrir une belle chanson qui date de 1967, mm-hmm. qui a été interprétée et composée par Anne-Marie Nebeau, qui n'a pas connu une carrière outre-Atlantique, qui a été connue en France, mais qui composait elle-même ses chansons. Et la chanson dit tout simplement « Chanson pour toi », et je pense qu'elle est empreinte de beaucoup d'espérance. Mm-hmm.